Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis Frédéric Cauchois et je représente le Club Objectif Chine que nous avons monté il y a 4 ans à la Chambre de commerce et l'industrie internationale de Bordeaux, la CCI internationale. Nous avons le plaisir de recevoir ici aujourd'hui chez Mola Félix Torres qui nous présente le temps de la Chine avec une question posée aujourd'hui. C'est vraiment d'actualité. C'est faut-il croire encore à la Chine? Félix, quel est ton avis là-dessus?
La Chine est devant nous. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous.
Ça, c'est quand tu te lèves le matin que tu regardes à
Non,
l'est.
non, 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 non. Oui, tout à fait. Voilà. Le soleil est rouge et se lève à l'est. Voilà. Écoutez, je suis heureux d'être à Bordeaux puisque je suis descendu de Paris pour vous parler de ce livre qui s'appelle Le temps de la Chine que j'ai fait avec la Chambre de commerce française et d'industrie en Chine. Et en présentant ce livre, un peu en Chine, je l'ai présenté déjà en Chine, je l'ai présenté en France, un peu dans différentes régions de France, je me suis aperçu qu'en France, on avait énormément d'idées reçues sur la Chine. Alors, je vais démarrer un petit peu sur les idées reçues et après un peu rentrer dans qu'est-ce que peut faire la France en Chine et qu'est-ce que peuvent faire les entreprises françaises en Chine et un peu quelle devrait être notre relation avec la Chine, parce que je pense que la France doit et les Français, bien sûr, doivent améliorer leur relation avec la Chine. Alors, moi, je dirais, les idées reçues, j'en ai trouvé une dans la presse ce matin, je disais Le Figaro dans le train en descendant, il y avait quelqu'un qui parlait de géopolitique et disait la fragilité de la Chine, la fragilité de la Chine. Moi, je suis assez frappé, au contraire, de voir que depuis 30 ans que la Chine a décollé, s'est ouverte au monde, depuis 1978, hein, depuis l'ouverture de Deng Xiaoping, depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, depuis ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, ou plutôt les années dorées, les années d'or, les années de croissance à deux chiffres. La Chine a connu une croissance considérable, un décollage considérable, qui a fait d'elle la deuxième économie du monde. Et on aborde cette croissance uniquement de façon conjoncturelle. Est-ce que c'est 11%? Est-ce que c'est 12%? Est-ce que c'est 8%? Oh là là, ils sont à 7,5%. Nous, on rêverait en France d'être à 7,5%, bien sûr.
Déjà 3%, ce serait pas mal, non?
Oui, voilà, par exemple. Les Américains, on peut imaginer qu'ils vont être à 3%, vous voyez, dans 2015. Bon, cette fixation qui est devenue d'ailleurs un enjeu, hein, le taux croissant chinois est devenu un enjeu en soi, nous fait oublier le structurel. Le structurel, c'est quoi? C'est que la Chine vit depuis 30 ans et plus un gigantesque rattrapage. Hein. C'est-à-dire le rattrapage d'une économie qui était une économie paysanne, de gens qui vivaient à la campagne, et qui devient une économie urbaine, de gens qui vivent en ville. Alors je crois que c'est vers 2001-2002, hein, au début des années 2000, que le chiffre de personnes qui vivent en ville et à la campagne est passé de 50%. Mais je dirais, ce qu'on oublie toujours, mais sûr, parce qu'on est à l'échelle de la Chine, c'est que qui dit urbanisation de la Chine dit un gigantesque transfert de population, mais à l'échelle chinoise, 100, 200, 300 millions de personnes dans les 20 années qui vont venir vont passer de la campagne à la ville. Ces 300 millions de personnes, après les 500 millions de personnes qui sont passées à la ville, il faut les nourrir, les habiller, les loger, les éduquer, leur donner du travail. Donc, le grand phénomène du 21e siècle, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un économiste américain, un prix Nobel, il s'appelle Stiglitz. Il avait dit un jour, il y a 20 ans, dans les années de 98, je crois, il avait dit qu'il y a deux grands phénomènes qui vont marquer le 21e siècle, c'est les nouvelles technologies de l'information Internet, on y est, bien sûr, avec Facebook, tous les réseaux, et c'est quoi la deuxième? L'urbanisation de la Chine. C'est-à-dire que le mouvement qui amène les Chinois de la campagne à la ville est un mouvement colossal. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et je dirais, c'est un rattrapage aux besoins immenses, un peu comme d'ailleurs les pays émergents. C'est-à-dire que les pays émergents comme la Chine, qui est un pays émergent, ou émergé si on veut, c'est un pays qui a à faire beaucoup de choses en même temps. Construire des infrastructures, gérer l'urbanisation, l'organiser, éduquer les gens, bâtir des politiques sociales. Enfin, c'est des gigantesques défis. Or, ce sont des défis qu'on ne résout pas en quelques années, bien sûr, et qui sont toujours devant. Alors, vous voyez, dans le livre en particulier, on fait une série de portraits sectoriels, et j'en prenais un au hasard, bien sûr, c'est le transport aérien. C'est-à-dire, par exemple, le nombre d'aéroports en Chine, la Chine est très en retard en termes d'aéroports, même avec les aéroports modernes que vous connaissez si vous allez en Chine, très en retard par rapport à des pays comme les États-Unis, bien sûr, mais aussi l'Afrique du Sud ou le Brésil. Donc aujourd'hui, et quand on prend l'avion aujourd'hui en Chine, on constate que les avions sont pleins, tout le temps pleins, de gens qui ne sont pas obligatoirement des cadres de grandes entreprises. C'est plein de Chinois qui vont dans tous les sens. Et bah, y a une tendance lourde, il suffit de la projeter, hein, c'est comme l'automobile ou le ferroviaire. C'est-à-dire que les Chinois vont de plus en plus voyager, parce qu'ils sont de plus en plus développés, éduqués, et fatalement, ils prennent de plus en plus l'avion notamment. Donc il y a une tendance lourde, c'est une tendance lourde. qui consiste à de l'équipement aéroportuaire, qui consiste à acheter des avions, bien sûr, notamment des 320. C'est aussi former des techniciens, c'est aussi former des pilotes, c'est aussi, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on a un gigantesque mouvement en Chine depuis deux décennies, mais c'est un mouvement qui va durer. Un petit mot quand même sur les chiffres, la question des chiffres. Quand on nous dit, oui, c'est plus les chiffres la croissance n'est plus à deux chiffres, ce qu'on a oublié, c'est que la croissance chinoise depuis 30 ans, elle n'a jamais été linéaire. On a oublié qu'à la fin des années 90, il y a eu ce qu'on appelle la crise asiatique. Et donc l'économie chinoise a fait un très net recul. Et c'est pendant ce recul que l'équipe de Zheng Jiemin et Zhu Rongji a notamment restructuré toute l'industrie chinoise, qui était une industrie d'État extrêmement lourde et archaïque. Donc je dirais, penser que la croissance des années 2001, 2008, 2009, avant la grande crise mondiale, la croissance à deux chiffres, c'est la règle absolue, et que si on sort de cette croissance, c'est fini, la Chine va s'écrouler, c'est une idée fausse. Notamment, parce qu'on oublie, on dit la Chine, voilà. On dit la Chine, on dit les Chinois. Bon, alors on imagine des gens à Pékin, à Shanghai, peut-être à Chengdu, peut-être à Canton. Bon, et puis on imagine Guilin avec les cormorans qui attrapent les poissons. Bon, attendez, la Chine, c'est un continent de 26 provinces. Chaque province est plus grande et plus peuplée que la France. Donc c'est 25 fois la France déjà. La Chine, c'est 25 France déjà. Bon. La Chine, c'est 1,3 ou 1,4 milliard d'habitants. J'en parlais avec un ancien président d'EDF et on se disait, dans la virgule au-dessus du milliard, on ne sait jamais où la mettre. 3, 4, 5, qui le sait, vous mettez l'Europe, vous mettez les États-Unis. Entre le milliard et la fin du 1, vous mettez un continent. Une seule province chinoise, je veux dire, c'est plus grand que la France. Donc je dirais, on oublie toujours, quand on parle en France, on parle de la Chine, on voit la Chine comme une petite France. Ou une grande France, vous voyez, bon, Paris, Bordeaux, Marseille. Non, la Chine, c'est un continent. Un continent avec la brutalité physique qui est celle de la Chine, c'est-à-dire des montagnes qui traversent horizontalement, des grands fleuves qui sont le fleuve jaune, le fleuve bleu, la Chine littorale, bien sûr, qui se développe. Et alors, je dirais, paradoxalement, une des grandes forces de la Chine d'aujourd'hui, c'est l'inégalité de développement, parce que chacun sait que la Chine est un amphithéâtre, hein. Du plateau du Tibet, du Xinjiang, on descend, et les fleuves descendent avec vers la mer. Il est clair que la Chine qui s'est beaucoup développée, c'est la Chine littorale, hein, la Chine des provinces, le Guangdong, le Fujian, le Zhejiang, le Shandong, etc., la région de Pékin. Mais il y a toute cette Chine qu'on appelle la Go West Policy qui se développe. Or, cette Chine-là, fatalement, elle est en retard sur la Chine littorale. Elle sera toujours en retard parce que, moi je dis souvent, je prends l'exemple des États-Unis, quand je donnais des cours de géographie américaine il y a un certain temps, les rocheuses seront toujours les rocheuses. On ne remplacera pas New York par les rocheuses. On ne remplacera pas la Sun Belt, le Texas, la Caroline, le sud des États-Unis par le Nebraska. Il y aura toujours en Chine d'immenses inégalités. Alors quand on dit 7,5%, ben, moi je dis regardez le taux de croissance des provinces. Le Sichuan est à 13%. Chengdu, je ne sais pas à combien c'est. C'est-à-dire que quelque part, on oublie toujours.
9%,
ouais, alors, on oublie toujours, quand on parle de la Chine, l'immensité régionale de la Chine, qui est celle d'un pays de plus d'un milliard d'habitants. Et donc, cette immensité régionale, c'est une chance pour les économies ou les entreprises occidentales, notamment françaises, qui s'y intéressent vraiment. Alors, est-ce qu'on s'intéresse, nous, Français, vraiment à la Chine? Je pense, mais très rapidement, on pourra y revenir dans le débat, je pense que, contrairement à ce que les Français aimeraient croire, bon, c'est l'anecdote célèbre, je la répète une fois de plus, c'est quand, je crois que c'est Pompidou, le premier président français, allait en Chine en 1973, rencontre Chou Enlai et lui dit « Ah, on vous a reconnu, la France avec le général de Gaulle a été la première grande puissance occidentale à connaître la Chine, c'était en janvier 1964, on fête les 50 ans de cette reconnaissance. » Et Chou Enlai dit « Mais oui, mais vous avez brûlé le palais d'été avec les Anglais en 1860. » C'est-à-dire que nous, on pense français très naïvement que parce qu'on... On pense que parce qu'on s'intéresse à la Chine à un moment donné ou parce qu'on fait un voyage en Chine, ça vaut pour toute entreprise ou pour tout individu. Ça y est, les Chinois vont nous accueillir à bras ouverts et puis on peut revenir 20 ans après ou 50 ans après ou 2 ans après. Les Chinois se rappelleront nous. Non. Les Chinois, ils aiment qu'on s'intéresse à eux vraiment. Ce sont des individus à part entière. Et je pense que dans la relation franco-chinoise depuis Louis XIV, pour simplifier, contrairement à ce que c'est dit, et c'est notamment, il y a un article du livre qui le raconte, c'est une relation beaucoup plus heurtée, la relation franco-chinoise, qu'on a dit. On a fait trois fois la guerre à la Chine au XIXe siècle, on l'a complètement oublié en France, bien sûr. Mais on est allé, enfin, Il n'y a pas eu de troupes chinoises arrivant à Metz ou au Havre, hein, je vous rassure tout de suite. En revanche, les armées françaises, les flottes françaises ont débarqué en Chine et ont fait la guerre à la Chine sur le territoire chinois. Alors, nous, on a oublié ça. Les Chinois s'en rappellent. Et notamment, on a détruit ou pillé le palais d'été, dont certains objets se retrouvent encore dans nos musées en France. C'est comme si des troupes chinoises étaient venues en 1860, piller Versailles, raser Versailles, ne laissant que des ruines. Hein, parce que si vous allez en Chine et vous allez voir ce qui reste du palais d'été, c'est quand même des ruines. Ben, c'est normal qu'un peuple n'oublie pas. Nous, les Chinois n'oublient pas. Nous, on a un peu oublié. Et je pense que dans la relation française avec la Chine, on a un problème de zoom. On a du mal à bien, nous, Français, qui avons été une grande puissance, qui sont toujours une grande puissance, mais qui est quand même une puissance en termes démographiques moyenne, on a du mal à accommoder le temps chinois et à accommoder la Chine comme continent. On a du mal à rentrer dans cette relation. Soit on se voit plus grand que ce qu'on est par rapport à la Chine, ou je crois qu'offensivement, on s'abrite beaucoup dans la crise actuelle que connaît la France, derrière quelques idées reçues. Notamment, et ça fait la transition avec le point suivant, la menace. C'est-à-dire que nous, bon, quand on voit les idées reçues qui traînent aujourd'hui en France, bon, d'ailleurs, petit retour en arrière, longtemps, les Français n'ont pas cru dans le décollage chinois. Hein. Je suis historien de formation, consultant, éditeur, j'ai retrouvé des articles ou des livres qui dataient de 2006, où on s'interrogeait encore en 2006, en France, sur est-ce que la croissance chinoise va durer ? Est-ce que c'est pas une sorte de miracle ou une sorte de décollage par hasard et que les Chinois vont revenir à leur rizière immémoriale en 2006.
Félix, on sent bien ton amour pour la Chine et c'est vrai que tu me disais tout à l'heure, pour bien comprendre la Chine, il faut l'aimer. Et à travers tes mots, on voit qu'effectivement, tu l'aimes, cette Chine. Mais aujourd'hui, malgré tout, quand tu es face à tout ce qu'on peut entendre et écouter, nous ici, on est en France, tu sais, on ne vit pas la Chine. On entend, il y a beaucoup de pollution, la croissance, tu en parlais tout à l'heure, c'est une catastrophe, l'endettement de certaines entreprises, les luttes contre la corruption. Donc on s'inquiète, on se dit, qu'est-ce qui va se passer demain ?
Je crois que c'est un peu à travers français de s'inquiéter beaucoup sur la France en général, puisqu'on est le peuple le plus pessimiste du monde, paraît-il, et sur la Chine par contre-coup. Je pense que je dirais, tout ce qu'on lit sur la pollution, les inégalités sociales, etc., c'est là, je dirais, les ombres, hein, sur un tableau quand même globalement positif. La Chine est sortie de la famine, hein, et je dirais, je voulais citer un chiffre, c'est les classes moyennes chinoises. Bon, les classes moyennes chinoises, si on dit 40 000 dollars par an, elles seraient, allez,
380 millions.
Ah, moi, j'avais 300 millions. Donc, depuis deux semaines, c'est-à-dire que 380 millions, mais écoutez, c'est quatre fois l'Allemagne. Les classes moyennes chinoises, c'est quatre fois l'Allemagne. Alors, ces gens-là, si vous allez en Chine, et bien sûr, si on regarde un peu les émissions, on s'aperçoit que ce sont les gens qui consomment, qui se logent, qui achètent leur appartement, qui investissent dans l'immobilier. Qui font du tourisme, ils ont des vacances, c'est vrai, ça arrive. Hein, j'en ai vu, hein, beaucoup en Chine. Il est très dur de visiter un monument chinois sans chinois. Et même ils viennent en Occident avec un certain pouvoir d'achat et acheter. Donc c'est quelque part, quand on dit la Chine aujourd'hui, c'est un société qui se développe, qui investit et donc qui devient un gigantesque marché. Ça, c'est le point important. Alors, nous, on voit la Chine comme menace, c'est-à-dire, moi je ne vois pas très bien en quoi la Chine pourrait être une menace pour la France, mais on pourra en parler sur le pillage des technologies, sur la copie des technologies. C'est-à-dire que, je dirais, on a un peu l'impression que les Chinois vont débarquer, hein, mais il y a 50 ans, c'était le défi américain. C'est-à-dire que on allait devenir américains, tous manger des hamburgers, tous boire du Coca-Cola et tous mâcher du chewing-gum. On boit du Coca-Cola.
À Bordeaux, on boit beaucoup de Baijiu.
Mais on n'est pas devenu entièrement américain et le débarquement américain, qu'on craignait beaucoup il y a 50 ans, est resté dans l'ordre de la chimère. C'est un peu pareil pour la Chine. Il n'y aura pas de débarquement chinois, il n'y aura pas d'invasion chinoise, et on pourra parler tout à l'heure des châteaux bordelais. En revanche, il y a un pays de 1 milliard, 3 millions d'habitants qui se développe, qui se modernise, qui construit des infrastructures, qui devient un grand marché de consommation. La question qu'on doit se poser, que se sont déjà posés les Allemands, c'est quelles opportunités pour notre économie française qui est si anémie ou si essoufflée. Alors moi j'en vois trois ou quatre. La première, parlons un peu d'industrie quand même. On a toujours tendance à dire, puisque si on leur file une technologie aux Chinois, ils vont nous la piller. Non, il y a d'abord parce que les Chinois, les entreprises chinoises sont en concurrence entre elles. Moi j'ai déjà rencontré beaucoup, notamment dans la machine, outils et autres. Elles lui disent, on a besoin de partenaires industriels. Pourquoi ? Pour se moderniser, mais aussi pour continuer à être performant et concurrentiel sur le marché chinois. Le premier marché de la Chine, c'est le marché chinois. En termes d'agroalimentaire, parlons un petit peu de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, ce n'est pas seulement les vins de Bordeaux, c'est aussi le fait que le consommateur chinois aujourd'hui est très inquiet sur les risques. Il y a eu tellement de scandales, le lait, la mélanine, etc., le porc, le cloumoutal, etc. Alors, il faut voir aussi qu'il y a des raisons structurelles à ce retard. D'une part, une agriculture chinoise qui est quand même très en retard, qui n'est pas au niveau de l'agriculture française. Une industrie agroalimentaire chinoise qui est balbutiante par rapport à l'industrie agroalimentaire française, hein, qui est très développée. On donne des exemples dans le livre d'entreprises agroalimentaires ou comme Limagrain ou d'autres qui vont en Chine, pas pour faire à la place des Chinois, mais pour dire on va vous conseiller sur les semences ou en termes d'agroalimentaire on va vous conseiller sur la traçabilité. Alors, notamment, il y a un article intéressant d'un avocat sur qu'est-ce que c'est toutes les dispositions aujourd'hui en termes de traçabilité, de sécurité que les Chinois prennent. Mais clairement, il y a un marché de rattrapage technologique pour les entreprises industrielles françaises. Il y a un marché de conseil pour les entreprises agroalimentaires françaises, ce qui vaut aussi pour le vin. Et il y a aussi un marché, mais sûr, de vente directe. Bon, on voit se développer notamment dans... En Bretagne, des joint ventures ou des usines de séchage de lait, c'est-à-dire la poule infantile, bah les Chinois, ils préfèrent acheter la poule infantile, que ce soit Yoplait, Candia. Donc, c'est-à-dire, il y a un marché direct. Mais alors là, je voulais dire, moi, je pense qu'avec Fred, on est d'accord, le petit défaut français des entreprises françaises quand elles vont en Chine, c'est, nous voilà, elles y vont une fois.
Ouais.
Hein, elles ne parlent pas chinois, elles arrivent en Chine. Et je dois confesser que ça m'est arrivé. Enfin, je suis arrivé en Chine, j'allais dans le Guangxi, tout au sud de la Chine, à côté du Vietnam, je ne savais pas où j'arrivais, on m'aurait dit tu arrives. C'est comme si un Chinois arrivait en France, on lui dit tu vas arriver à Bordeaux. C'est où Bordeaux? C'est à côté de Strasbourg? Non, c'est à côté de Lille. Non. C'est à Bordeaux, c'est sur la zone Atlantique. C'est-à-dire qu'on ignore totalement la géographie chinoise. Hein. Et beaucoup d'entrepreneurs arrivent en Chine, repartent, n'ayant aucune idée où ils ont arrivé et confondant la Chine du Nord et la Chine du Sud, parce que sur un pays continent d'un milliard quatre d'habitants, il est clair que les Chinois du Sud de Canton, province aussi grande et aussi peuplée que la France, je me répète, n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir qu'avec les Chinois de Pékin, ou ceux du Shandong, ou ceux de Shanghai, vous voyez, ainsi de suite. On a un peu tendance à tout... parce qu'on ne fait pas attention. Et moi, je dirais la première chose qu'il faut dire... Il y a deux choses, deux petits conseils que je donne toujours et que je voudrais un peu répéter ici. Le premier, c'est prendre du temps. Quand on va en Chine, je crois que c'est toi qui le disais, hein, il faut y aller plusieurs fois. Il faut y aller plusieurs fois et pas penser qu'on va tout faire du premier coup ou alors on va tout échouer du premier coup et hop, c'est fini. Je remballe, ah, ça n'a pas marché, les Chinois sont comme si, ils ne marchent pas. Non, il faut y revenir plusieurs fois, il faut prendre le temps de comprendre un pays continent dont la culture s'est développée indépendamment de la nôtre. Donc du temps, donner du temps au temps, excusez-moi de la formule, il y a un pays qui le fait ça, c'est l'Allemagne. Je cite une anecdote que c'était le PDG américain d'une entreprise à Caterpillar à China qui est parti à un grand succès. J'ai acheté ce livre en pocketbook à Shanghai. Et ce monsieur, bon, je ne me rappelle pas le nom, disait « J'ai décidé d'investir dans le marché chinois quand j'ai vu une conférence en 1992. C'était un Allemand de Volkswagen qui disait « Le grand marché chinois de l'automobile des années à venir, ce sera la Chine. Le grand marché automobile, ce sera la Chine. » Alors il s'est dit, si un Allemand de Volkswagen dit ça en 1992, c'est qu'il doit avoir une part de vérité. Donc chacun sait qu'aujourd'hui Volkswagen est un des premiers constructeurs automobiles en Chine, avec plus d'1,5 million de véhicules, et que PSA est loin derrière. Il faut prendre le temps de la Chine, il faut s'inscrire dans la durée. Et la Chine vous le redonne, parce que les Chinois... Je voulais dire un petit mot, je suis aussi anthropologue et de formation, c'est-à-dire que moi ce qui me frappe dans la Chine, c'est pour ça que j'aime la Chine, c'est le côté interpersonnel. Chaque Chinois est différent, c'est une évidence, mais on peut rencontrer chaque Chinois, on peut rentrer en relation avec chaque Chinois, et les Chinois ne vivent que des relations interpersonnelles. Il y avait un mot très beau de Paul Claudel, qui était consul, l'écrivain Paul Claudel, qui était consul à Tianjin, depuis les années 20, qui disait, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez de la Chine et des Chinois, il disait, je ne peux pas vous répondre, je ne les connais pas tous. D'ailleurs, oui, on connaît des Chinois, voilà. Et je veux dire, il faut savoir entrer en relation avec les Chinois, ce qu'on appelle le relationnel, le guanxi, etc. C'est-à-dire que la Chine est un univers de la relation, de l'échange, du cadeau, du don et du contre-don, de la confiance. C'est-à-dire que si on veut bien travailler les Chinois, fonder des partenariats, des JV durables, il faut prendre le temps... Alors, moi, je suis éditeur par ailleurs et je vais éditer un livre sur la cuisine chinoise. Et l'auteur chinois qui est en train de l'écrire avec moi, enfin pour moi, me disait je ne comprends pas les Français, ils ne nous comprennent pas, nous, on passe tout notre temps à table. Ah bon ? Moi, j'avais le sentiment, nous, Français, que nous, on passait tout notre temps à table et que tous les autres peuples de la Terre, chinois y compris, mangeaient sur le pouce comme ça. Non, non, ben, y a un autre peuple qui est comme nous, qui sont les Chinois, qui ne décident rien sans avoir fait plusieurs repas avec les gens avec qui ils travaillent, qui adorent, par exemple, les McDo chinois. Hein, j'ai vu récemment que dans un McDo chinois, contrairement à un McDo français ou américain, on passe son temps, on arrive et puis on s'installe et puis ça prend du temps. Parce que le Chinois, d'abord, il aime manger. Il aime manger, il aime la bonne chair, il pense qu'il a la meilleure cuisine du monde, hein, meilleure que la française, et il aime passer du temps avec ses amis, il aime échanger, il aime vivre de la vie au temps présent. Est-ce que beaucoup de Français, d'entrepreneurs français, s'en sont aperçus? Je n'en suis pas sûr. Et paradoxalement, les Allemands s'en sont aperçus. Quand j'ai demandé un jour et je vais en rester là pour cette introduction, j'ai demandé un jour à un ami chinois pourquoi les Allemands sont meilleurs que nous, puisque à peu près la part de marché allemande en Chine, c'est 5,5% de mémoire. La française, c'est 1,3%. Donc, trois fois plus fort que nous. Alors qu'on était sur la même ligne de départ en 1980. Ils m'ont dit, ah, c'est intéressant, vous êtes le premier Français qui me demande cette chose-là. Et il me dit, pour deux raisons. D'abord, parce que les Allemands sont là depuis longtemps. Ah bon, bah, ils sont là depuis longtemps dans le Shandong, la bière Qingdao, tout ça. C'est-à-dire que, oui, les Allemands donnent l'impression, ou ont donné le sentiment aux Chinois qui sont là avec eux depuis très longtemps. Alors que nous, on n'a pas donné ce sentiment, alors que pourtant, on les a reconnus en 64. Non, Fred. Et la deuxième chose, il m'a dit, et quand un Allemand, un interlocuteur allemand, une entreprise allemande, part en vacances ou part en long week-end, il dit, non, ne vous inquiétez pas, le docteur Wagner me remplace pendant les trois jours où je ne suis pas là, ou la semaine, ou les deux semaines, et s'il y a un problème, il va vous rappeler. C'est-à-dire que l'Allemand, ça rassure les Chinois, ne brise jamais le lien, reste toujours en contact. Et notre défaut, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on est un peu trop, nous, Français, dans le guidon. On est un peu trop dans le coup par coup, dans la conjoncture, 7,5%, est-ce que la Chine, c'est fini? Est-ce qu'il faut encore croire à la Chine? Non, prenons la Chine dans la durée, voyons les choses qui vont durer. Nous, on a des relations avec les entreprises chinoises dans la durée. Et je dirais, bon, c'est une formule que j'ai employée dans un article de presse récemment, c'est faisons symbiose avec l'économie chinoise. C'est-à-dire, non pas, ce n'est pas une menace pour nous, ce n'est pas un océan qui va nous engloutir, ça c'est une idée reçue. Surfons, accompagnons la vague chinoise. Hein. La vague chinoise, elle est devant nous. Et moi, j'aime souvent terminer par cette formule qui est, il faut monter dans le train chinois. Alors, on me dit, est-ce qu'il est encore temps d'aller en Chine? Oui, il est encore temps d'aller en Chine. Toujours, il sera encore temps demain. Mais bon, il vaut mieux monter maintenant dans le train, même dans le dernier wagon, même dans le dernier compartiment, en étant même sur le strapontin ou dans la soute à bagages. Parce que sinon, on reste sur le quai de la croissance chinoise. Et ça, c'est pire.
Oui, alors c'est pire peut-être, c'est vrai, mais surtout que les Français sont très connus en fait pour avoir toujours un avion qui revient. C'est-à-dire que les Français, quand ils ont des relations avec les Chinois, ils sont connus pour pouvoir dire « désolé, mais j'ai un avion demain, je suis obligé de repartir ». Donc on a une image de personnes extrêmement pressées, donc on ne va pas jusqu'au bout des choses. Et c'est vrai que rester dans le dernier wagon, dans le dernier compartiment du train sur le strapontin, le principal, c'est de vouloir y rester. La Chine, en fait, est un pays qui va se consommer si on le consomme sur la durée. Et aujourd'hui, faut-il croire encore à la Chine? Peut-être. Toujours est-il qu'il faut la tenter et aller jusqu'au bout, en fait. Parce qu'avant de juger s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller, si on décide d'y aller, on ne peut pas y aller pour butiner. On peut y aller pour construire une expérience. Et c'est vrai qu'avant d'aller sur la Chine, comprendre un petit peu comment fonctionne la Chine est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'à travers les témoignages du livre de Félix, on a beaucoup de témoignages qui nous amènent là-dessus. Néanmoins, aujourd'hui...
Je peux pas... Vas-y. Notre président de la République actuelle est allé en Chine la première fois il y a un an et demi. Il y a un an à peu près, il est resté 48 heures en Chine. Il y avait déjà l'avion qui était prévu. Ça a beaucoup... Et quand il est allé au Japon, il est resté plus longtemps qu'en Chine. Ouais. Il est resté qu'à Pékin, il n'est pas allé à Shanghai, il n'est pas allé dans les provinces, il aurait pu aller à Wuhan, il y a beaucoup de Français. Ça a beaucoup frappé les Chinois et choqué les Chinois et certains Français qui connaissent la Chine, comme moi et d'autres. Alors, pourquoi cette précipitation à prendre l'avion du retour?
Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'au retour, il y a un mois de ça, on avait la visite du président chinois qui était ici et les Français à Paris, parce que j'y étais à ce moment-là, se demandaient mais pourquoi ce Chinois reste si longtemps chez nous? Tout est bloqué, on n'en peut plus, il y a des barrières partout. Et donc les Français ne comprenaient pas pourquoi le Chinois était là longtemps. Pourtant, c'était le 50e anniversaire de la célébration.
J'ajouterais que, curieusement, il a compris que la France, ce n'était pas Paris. Il est arrivé par Lyon.
Exactement. Donc,
la prochaine fois que quelqu'un part en Chine, qu'il pourra arriver à Shanghai ou il pourra arriver à Wuhan. D'ailleurs, je lui signale qu'il y a 14 vols Air France, 14 destinations, et pas seulement Shanghai, Wuhan ou Pékin.
C'est vrai. Néanmoins, demain, la Chine, si on veut y croire, il y a deux positions pour se positionner. On y croit pour le monde ou on y croit pour la France, d'accord? Hein, aujourd'hui, on est ici, on est chez Mola, on est à Bordeaux. Et à Bordeaux, un phénomène s'est déroulé sur les dernières années. C'est l'acquisition de 80 propriétés environ, sous contrôle de Laurence, qui vient d'écrire un superbe bouquin également là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, Laurence, sur les acquisitions de propriétés de Chinois à Bordeaux. Alors, on en parle beaucoup, mais il y a plus de Belges et de Néerlandais qui ont acheté des propriétés hein, sur les dernières années. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut croire justement à ces Chinois qui viennent faire du commerce, par exemple, chez nous? Acheter, quelle est leur démarche? Pourquoi ils viennent chez nous? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'il y a une démarche particulière derrière? Est-ce qu'ils veulent copier? Est-ce qu'ils veulent s'inspirer, apprendre? Peux nous éclairer un petit peu sur ton avis?
L'entrée de la Chine dans le vin rouge, c'est 78-79, c'est quand Deng Xiaoping a dit il faut en créer une JV. C'est la plus ancienne de Chine avec notre Rémy Cointreau, bon, qui fait du cognac, mais c'est une JV qui a donné naissance à la marque Dynastie. Il a dit il faut que les Chinois arrêtent de boire ou boire beaucoup moins l'alcool blanc, le Mao Tai, le Baijiu, tout ça, qui sont des alcools extrêmement forts, extrêmement mauvais pour la santé, et qui consomment des céréales en plus, pour les amener vers le raisin. J'imagine que Deng Xiaoping, qui, comme vous le savez, a passé une partie de sa jeunesse militante et ouvrière en France dans les années 20, avait goûté au charme du vin rouge français. Mais clairement, le choix du vin rouge est un choix d'abord politique par les autorités chinoises, qui consiste à dire c'est mieux que... Puis c'est bon pour la santé. On est tous d'accord. Le vin rouge, c'est bon pour la santé. Modérément, bien sûr. Et donc, il y a ce choix qui commence. Et donc, on voit, il est clair que quand il y a eu une période de vin rouge, un peu de Far West, comme je veux dire, de pillage de marques, de copies de marques, etc. Mais aujourd'hui, à partir des années 2000, naissant ou dans une classe moyenne chinoise, parce que ce qui intéresse les Chinois, c'est le marché chinois, bien sûr. C'est un marché de 300 millions de consommateurs ou 380 millions de consommateurs. C'est ça qui intéresse les Chinois. Et donc, les Chinois, à la fois... Les Français, d'autres exportent du vin, bien sûr. Certains rachètent des châteaux Bordeaux, mais il y a aussi des grandes marques françaises qui créent, notamment les barons Philibert Rothschild, qui créent des vignobles en Chine, hein, dans le Shandong. Le but, c'est quoi? C'est fabriquer des différentes marques de vin, dont le niveau monte, hein, après avoir été assez médiocre, c'est vrai, et pour un marché de consommateurs de 300 millions. Il y a 300 millions.
Et si on fait une projection, ce sera 650 millions en 2016 et 1 milliard en 2020.
Il y aura de la place pour tout le monde sur ce marché,
je pense.
Mais il est clair que, et je voulais pas lancer, on ne voulait pas lancer le débat sur le vin, mais il est clair aussi que dans un certain passé, les négociants français, ou certains négociants français, ont pris un peu la Chine pour le Far West, quoi. Et on dit, voilà, ils vont acheter un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, bah, la qualité monte, il y a de la concurrence, il y aura de la place pour tout le monde, parce que, et puis le Chinois... Moi, dans cet article, il y a une interview de Bernard Arnault qui parle du luxe. C'est intéressant parce que le groupe LVMH n'aime pas communiquer à l'extérieur sur ce qu'il fait. Mais là, il nous parlait du luxe. Et il me disait une chose assez frappante. Il disait, les Chinois, c'est pas, enfin, je simplifie, hein, c'est pas des, en luxe, on a constaté un truc, c'est pas des porte-manteaux. C'est pas des gens qui achètent le luxe qui achètent par valise, sans regarder. Le Chinois, il est sophistiqué, de plus en plus sophistiqué, exigeant, il compare, il crée déjà ses propres marques. De couture. C'est-à-dire que quelque part, le consommateur chinois, et il y a un très bon papier que je vous conseille dans le livre, s'appelle Le Nouveau Consommateur Chinois. Le consommateur chinois, il est chinois, exigeant, il regarde, il ne connaissait rien il y a 10 ans, il ne savait pas ce que c'était que le mot consommer, maintenant il le connaît. Et donc, dans le vin comme ailleurs, moi je ne me fais pas de soucis. Ils vont dans les écoles, ils apprennent à boire, ils apprennent à comparer. Et c'est vrai qu'actuellement, ils ont un peu tendance aussi à préférer certains vins du Nouveau Monde. Parce que le rapport qualité-prix est peut-être meilleur que le nôtre.
J'aime bien quand tu viens provoquer les Bordelais ici.
Voilà.
Justement, aujourd'hui, tu parles de consommateurs chinois avertis. Est-ce que c'est une chance pour les économies occidentales, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt une chance pour les entreprises chinoises?
Les deux, c'est-à-dire que... Marché toujours pareil, un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants, donc il y aura de la place pour tout le monde. Il est clair que les entreprises chinoises se développent, qu'elles sont en concurrence entre elles, que beaucoup sont en quête de technologie, de financement, mais qu'il y a de la place pour les entreprises occidentales, à la condition, voilà, on veut rentrer dans le détail, d'adapter les produits au marché chinois, de trouver les bons partenaires, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas une première fois, on ne développe pas un business donne des exemples dans le livre, on ne développe pas un business en Chine comme ça, mais il y a la place pour tout le monde. Je voudrais citer un seul exemple que je cite tout le temps. J'ai découvert à Canton, quand je présentais le livre à Canton Guangzhou, pardon, il y avait un Français, un jeune Français, qui avait sans diplôme, sans rien, pas de financement. Il a créé 130 salons de coiffure, un peu façon Jacques de Sang, chez les gens de franchise, mais c'est aussi des salons de beauté, sur la ville de Canton, sur la métropole, la ville de Canton. C'est
une la ville province, chinoise. La province, ouais.
Non, mais Canton, la ville de Canton, c'est 12 millions d'habitants. Quoi. Ce n'est que 15 millions, enfin 12-15 millions, c'est-à-dire... C'est une agglomération à la chinoise, quoi. 130 salons. Parce que j'avais dit 35, puis un jour, quelqu'un, on m'a rattrapé dans ces 130. Et son problème, il me disait, c'est maintenant, comment je peux aller à Shenzhen, c'est-à-dire passer la rivière des Perles. On est toujours dans le Guangdong, hein, on ne vous parle pas de la Grande Chine, tout ça. Passer la rivière des Perles et commencer à développer mon business, alors que je suis un peu... Je fais tout moi-même, hein, je suis chaque salon. Personnellement, où j'essaie, sur Shenzhen. Un Français... a créé 130 salons sur une seule ville chinoise. Et c'est vrai aussi, quand on parle du marché chinois, il faut aussi pas trop embrasser, voire trop grand, parce que le marché chinois, c'est gigantesque. Donc, il faut se concentrer sur quelques villes, sur les villes les plus... prendre le temps de bien les choisir. C'est un océan, la Chine.
Justement, cet océan, on a vu un grand mouvement des populations, des campagnes vers les villes. Aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il y a encore des opportunités dans les campagnes ? Tu parlais de l'agriculture qui devait se moderniser. Comment tu vois aujourd'hui le potentiel de développement des campagnes chinoises ?
Je connais mal les campagnes, pour être très franc, à part celle du Guangxi et un peu du Guangdong. Moi, ce qu'on m'a dit dans le Guangdong en particulier, c'est dire la fameuse délocalisation, c'est-à-dire que les industries à bas coût, ils disent, voilà, nous maintenant, on fait du high-tech, on fait du service, tout ça, donc, il suffit de voir le centre-ville de Canton qui est devenu très moderne, et on pousse les industries à bas coût ou de main-d'œuvre vers la campagne.
Bas coût, c'est en Russie, excuse-moi.
Ah, oui. Vous me direz. Non, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, la Chine aura un problème de nourriture parce qu'elle a beaucoup d'habitants et elle a un potentiel de terres arables relativement limité par rapport à sa population. Donc la Chine est condamnée. Bon, c'est le sens de l'exode rural, hein, comme partout ailleurs. Elle est condamnée à moderniser son agriculture comme nous, on l'a fait avec la Révolution verte il y a 30 ans. Elle a besoin de techniciens, elle a besoin de conseils. Et je pense qu'il y a beaucoup de PME qui ont des techniques spécifiques. Je parlais justement tout à l'heure, mais aussi des choses en traçabilité ou en d'autres techniques agroalimentaires ou agricoles. Je pense qu'il y a des choses à faire dans les campagnes chinoises.
Est-ce que tu es d'accord avec ce qui se dit de plus en plus en Chine, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les Français parce que les Français sont comme nous des paysans.
Oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour... on est deux peuples. On est très. Je me méfie de dire les Français ressemblent aux Chinois réciproquement, mais c'est vrai. A priori, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est deux peuples de paysans de chaque bout de l'Eurasie. On aime bien. On est des paysans. On aime bien les produits de la bonne chair. On aime bien la joie de vivre. On aime bien l'amour. On aime bien les jolies femmes. Tout ça. Et on est souvent régulièrement envahi de l'intérieur par des gens qui peuvent être mongols ou autres, hein, et pour les Chinois. Et on a dans la mer un archipel qui nous cause des petits soucis régulièrement. Nous, c'est la Grande-Bretagne et eux, c'est le Japon. Il y a beaucoup de choses qui devraient nous rapprocher. Mais curieusement, ça marche. Les Français ne se sont pas aperçus qu'ils ont des cousins avec les Chinois. Alors, sont des cousins.
C'est assez marrant parce que quand on en parle avec les Chinois actuellement, pendant ce 50e anniversaire de la célébration, des relations franco-chinoises, ça saute aux yeux à beaucoup d'industriels chinois et d'hommes économiques chinois et d'hommes politiques chinois. Est-ce que tu crois que c'est simplement conjoncturel ou c'est quelque chose qui peut se suivre d'un mouvement un peu plus structurel ?
Tu as raison, mais je pense que c'est pas ça qui fera la force de la relation franco-chinoise, parce que sinon on va dire elle est plus forte que d'autres. Or les Chinois nous jugent, enfin, moi j'ai d'autres échos, enfin nous jugent un peu sévèrement les élites chinoises en disant est-ce que les Français sont quand même à la hauteur de leur prétention ou même de leur arrogance. Je pense que la France a un syndrome de grande puissance à l'égard de la Chine. Et j'avais dit cette phrase il y a une semaine à Strasbourg, je la répète, je pense qu'on ne prend pas les Chinois au sérieux en France. Voilà. On ne prend pas la Chine au sérieux. On dit c'est passager, ça ne va pas durer. On a du mal à penser que ce pays, qui était quand même le centre du monde jusqu'au XVIIIe siècle, hein, puis après il y a eu la révolution industrielle occidentale, qui représentera toujours un quart de l'humanité, et puis qui sera un jour la première économie mondiale, on a du mal à penser que ça va durer, que les Chinois... Il y a de plus en plus de gens dans les écoles d'ingénieurs, il y a de plus en plus de gens qui étudient, le niveau de vie monte, il y a de plus en plus d'auto, de plus en plus de consommation. On a du mal à penser que bah oui, il faut prendre les Chinois comme des partenaires à part entière, et donc prendre le temps temps de les écouter et aussi de penser, oui, quand on dit, dans ta remarque, qui est une remarque un peu perverse, je dirais, on dit, ils sont comme nous, donc faisons pas d'efforts pour adapter nos produits ou notre comportement chinois. La Chine, c'est quand même une autre culture. Bon, ils iront au McDo, sans doute, mais ils continueront toujours à penser à vivre en chinois, parce que c'est une culture qui a 3000 ans, qui vit sur son... C'est l'autre, ce que j'appelle, moi, l'autre face du monde. La Chine, par rapport à l'Occident, par rapport à toutes les cultures occidentales de la Mésopotamie et l'Amérique, si on veut, pour se résumer, ça a toujours été un univers en soi, qui s'occidentalise, d'une certaine manière, mais qui a une autre manière de fonctionner, de penser, et qui est très attirant de ce point de vue-là, parce qu'il y a une force, je dirais, absorbante dans la culture chinoise, de la civilisation chinoise, pour les gens qui y vont. Mais je crois qu'il faut se mettre à la portée de cette culture, et il faut surtout s'y adapter les produits, adapter nos comportements, adapter nos façons de faire, ne pas penser que les Chinois s'adapteront à nous. C'est le contraire qui doit être le cas en Chine.
Est-ce que tu crois que le principal problème... Vous m'excusez juste une petite seconde. Est-ce que tu penses que le principal problème, c'est pas que justement nous, on est toujours la tête dans le guidon, comme tu le disais, à savoir qu'on est extrêmement pressé, on sait aujourd'hui ce qui se passait hier, enfin ce qui se passait il y a quelques secondes. On a une démarche dans le temps qui est terrible, on veut du résultat immédiatement, on veut développer de l'affaire dans l'immédiateté. Et les Chinois aujourd'hui, tu nous dis, ouais, ils ont besoin de créer une relation sur le temps, ils ont de la mémoire, il faut aller un peu plus lentement. Il n'y a pas un petit problème, en fait, entre deux civilisations qui ne peuvent pas se comprendre et qui ne peuvent pas se rencontrer?
Non, mais les Allemands fonctionnent très bien en Chine, les Italiens fonctionnent très bien en Chine, les Anglais fonctionnent très bien en Chine, les Japonais, malgré la relation sino-japonaise. Non, je pense que ce n'est pas un problème de Chine, c'est un problème de la Chine nous tend un miroir. C'est que la France, c'est le problème. J'en parlais, j'ai déjeuné avec un industriel bordelais tout à l'heure, qui est un ancien client. Notre pays manque de vision, et pas seulement par rapport à la Chine. Nous, on essaie, avec la Chambre de commerce, on a essayé modestement de dire, de proposer, pas des idées générales pour, contre, est-ce que ça va durer, non. Des idées, qu'est-ce qui se passe en Chine, c'est quoi les tendances, on les prolonge, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un pragmatisme. Et avec un peu de vision, et c'est un peu le sens de mon intervention et des interventions de Fred Cauchois. Il faut avoir une vision, et notre pays manque de vision en ce moment. Et notamment par rapport à la Chine, moi je dis que je pose quelques faits. Un pays de 1,3 milliard d'habitants, un pays qui s'urbanise, un pays dont les classes moyennes sont de plus en plus nombreuses, un pays qui est de plus en plus éduqué, qui compare, un pays qui... etc. C'est ça la vision. La vision dans la Chine sera, on dit 2017, peut-être 2020, la première économie mondiale. Est-ce qu'on peut rester à côté de la première économie mondiale? Donc, un peu de vision, comme les Allemands l'ont eu en 92. Je pourrais citer des anecdotes très cruelles sur la France dans les années 90-2000 en Chine. Mais ce n'est pas le propos. Un peu de vision. Nous avons une économie française qui est une économie essoufflée, pas seulement, je pense pas seulement parce que c'est la crise mondiale ou c'est la faute à l'Europe, à l'euro trop fort, à tout ce qu'on veut, mais aussi parce que sans doute les gains de productivité, parce que aussi on est une économie mature, on est une société mature. Il est clair que quelque part, on retrouvera jamais en France et en Europe occidentale en particulier, enfin les Allemands montrent qu'on peut déjouer le paradoxe, enfin les Allemands aussi, les gens de l'Europe du Nord, on retrouvera jamais des taux de croissance des 30 glorieuses, c'est clair. Mais se dire, on a une chance d'avoir un continent qui nous attend, qui nous appelle, qui a besoin de nos techniques, de savoir-faire, et qui a un immense soif d'apprendre, sachant prendre l'opportunité, parce que la Chine, moi j'ai souvent, elle est devant nous. C'est l'économie du 21e siècle, et, qu'on m'excuse, nous ne sommes pas le pays du 21e siècle, la France. Hein, il faut en faire notre partie. C'est plus nous. C'était nous sous Louis XIV, c'était nous sous Napoléon, c'était nous le Paris de la Belle Époque, le Paris de l'Europe avant le suicide de 1914. Mais non, le futur de la planète, et ça, ça a fait, voilà un autre fait structurel depuis 2 ans, et la crise n'y changera rien. Les pays émergents pèsent plus, la production des pays du Sud pèse plus que la production des pays du Nord sur la planète. Voilà la tendance lourde. Il n'y a pas que la Chine, il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a tous les pays émergents. Avec les fameuses classes moyennes chinoises dont on parle, on les retrouve dans tous les autres pays du monde émergents. Donc, je dirais, un petit point, c'est une question qu'on m'avait posée à Strasbourg ou ailleurs, je ne me rappelle plus, qui est dire la fameuse délocalisation, quand on va en Chine, c'est qu'on délocalise par rapport à ce qui se fait en France. D'abord, les délocalisations vers la Chine ou vers les pays à bas coût sont quand même, enfin, c'est une partie douloureuse, mais limitée quand même de la baisse de l'industrie française. Mais quand la majorité des entreprises européennes, c'est ce qu'on appelle le modèle européen, contrairement au modèle américain ou japonais, qui consiste à fabriquer en Chine, l'exemple de Foxconn et Apple est bien connu. En fait, quand on constate, quand on analyse les entreprises européennes qui vont en Chine, allemandes, françaises, italiennes, britanniques, elles ne vont pas en Chine pour délocaliser, elles vont en Chine pour produire pour le marché chinois. et aussi réexporter vers une zone qui s'appelle l'Asie, qui est la grande zone de développement. Donc je dirais, la Chine devient une plateforme pour un marché beaucoup plus vaste que l'Asie. Donc c'est une chance. Et je dirais, là, c'est vrai qu'on a la France en particulier, a un handicap, c'est qu'on est loin de l'Asie. Alors, on a notre relation traditionnelle, c'est la Méditerranée, c'est l'Afrique, c'est l'ancien empire colonial, c'est un peu, je dirais, le monde de la latinité, si on veut, un peu l'Amérique du Sud. Bon, puis on a un partenariat transatlantique avec les États-Unis, hein, puisque depuis l'indépendance américaine il y a deux siècles. C'est vrai qu'à part le Vietnam et la parenthèse française en Indochine, on n'est pas sur le Pacifique. On n'a pas la relation que peuvent avoir les Australiens, les Américains, même les Britanniques, avec la présence à Hong Kong, Singapour et autres. Il est clair que, on le voit d'ailleurs dans les proportions du commerce extérieur français, ça avait été signalé par plusieurs ministres, ça, c'est-à-dire que notre part de commerce extérieur est en retard en Asie par rapport à d'autres pays. Les Allemands ont montré, alors qu'ils sont quand même enclavés continentalement, qu'on pouvait déjouer ce sortilège. Mais c'est clair que pour la France, et je le vois quand on regarde la presse, s'intéresser à l'Asie pour la France, c'est pas évident. Et c'est dommage, et la Chine en particulier, c'est pas évident.
En fait, les sujets d'intérêt sont souvent des sujets polémiques et des sujets de controverse. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Juste un dernier point, je voudrais que tu me donnes deux mots un petit peu sur l'enseignement supérieur. Parce que je pense que l'enseignement, en fait, et l'enseignement supérieur en Chine ont permis et continuent de permettre, en fait, une progression et qui permettent justement de voir un horizon un peu différent. Parce que les gens qui sont éduqués, qui passent par cet enseignement supérieur, voyagent très souvent, connaissent l'Occident et ramènent avec eux un certain nombre de cultures occidentales également. Est-ce que justement la force et la chance peut-être de l'ensemble des économies western dans les prochaines années sur la Chine, c'est pas justement que de nombreux étudiants chinois viennent dans nos villes pour pouvoir étudier, dans nos universités pour pouvoir étudier?
Tout à fait. On consacre un dernier chapitre qui s'appelle le soft power. On dit voilà, il faudrait cultiver le soft power à la française. Et on prend notamment les exemples d'universités, notamment une école de business qui s'appelle Schema Business School, qui est présente sur trois campus, un en France, un aux États-Unis et un en Chine, à Suzhou. Il est clair qu'on pourrait faire plus. Et moi, tu as raison. Bon, il est clair que l'alter ego de la Chine, c'est le monde anglo-saxon. Enfin, ne rêvons pas, quand on dit la relation, ça me permet de rebondir ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la relation privilégiée France-Chine, c'est pas vrai, la relation privilégiée c'est Chine-Amérique, c'est Chine-monde anglo-saxon, parce que le leader mondial du monde aujourd'hui, c'est le monde anglo-saxon. Donc les gens, les Chinois, iront de façon prioritaire dans les universités américaines, c'est normal, jeunes Chinois, et c'est tout à fait normal. Ceci dit, il y a une partie des Chinois, minoritaires, de jeunes Chinois, qui choisissent la France. Soit parce qu'un parent ou un oncle ou parce qu'ils aiment la culture française ou parce qu'ils ont lu Balzac ou parce qu'ils ont lu ou parce qu'ils aiment les films français ou parce qu'ils aiment Catherine Deneuve, Sophie Marceau, c'est pas grave. Une partie choisit la France. Et moi, je suis assez frappé de voir l'indifférence. Nos amis chinois dans la salle pourraient venir. L'indifférence des Français à l'égard des jeunes Chinois. on vous voit, enfin pas moi, messieurs, mais bon, ils sont là. Bon, bah oui, voilà. Bonjour. Hop, Europe. Parmi nous, Français, vous êtes un atout pour la France. Parce que, fatalement, vous aimez la France, vous avez vécu en France, on comprend mieux un pays quand on a vécu dans ce pays et on a étudié dans ce pays, quand on s'est même éventuellement marié dans ce pays. Et donc, cette partie des Chinois qui vient en France, ne serait-ce qu'en touriste aussi, et qui repart, écoutez, elle amènera, elle dira, tiens, j'ai beaucoup aimé le fromage, ou j'ai beaucoup aimé tel parfum, ou j'ai beaucoup aimé ça, ou... C'est un atout pour la France. Et ça... Que de retard de notre pays pour cultiver nos atouts. Donc je dirais, oui, le soft power, c'est une notion récente, mais qui me semble extrêmement importante, il faut le cultiver, et moi on donne quelques bons exemples, notamment, je disais, dans tout ce qui est création française qu'on envoie en Chine, j'ai écrit l'article en question, je dis, c'est pas suffisant d'exporter nos films, d'exporter Alain Delon et Sophie Marceau, en disant, qu'est-ce qu'on est beau, regardez la culture française. Non, c'est aussi faire des démarches de création avec la Chine, en Chine, en disant, tiens, un happening ou une création, on l'a fait à Paris, mais on l'a fait aussi à Shanghai ou ailleurs. C'est-à-dire faire de la culture avec les Chinois pour produire de l'art.
Ça s'appelle de la co-création. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on pourrait travailler. Merci pour cette introduction.